Alors ce matin, j'aimerais vous partager une histoire. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Et je voulais voir dans cette histoire un peu le rôle des disciples. Les disciples de Jésus, les 12 qu'il a choisis, qu'il a appelés à le suivre. Ses disciples, justement, dans cette histoire, ils retrouvent Jésus après leur premier grand périple sans lui. Jésus les avait envoyés deux à deux pour guérir, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les disciples reviennent donc, après ce grand périple, vers Jésus. Et je pense qu'il y a des gens qui sont venus avec eux, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça circule. Ils n'ont même pas le temps de manger. À ce moment-là aussi, une terrible nouvelle arrive. Jean-Baptiste a été décapité par le roi Hérode. Et donc à ce moment-là, Jésus prend une décision. Il dit à ses disciples, venez, venez à l'écart, à un endroit désert, là où il n'y a personne pour vous reposer. Je dis ça, c'est la fin des vacances. Mais vous voyez que Jésus se soucie de ses disciples. Et il leur propose un endroit désert pour se reposer. Nous, on fait le contraire. On va à un endroit où il y a plein de monde pour se reposer. Enfin, voilà. Jésus et ses disciples partent alors en barque. Mais les gens le voient. Et puis, les disciples, ils ont bien fait leur travail. Ils étaient dans tous les villages, les villes aux alentours. Ils ont parlé de la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont fait des miracles. Et donc là, les gens, ils sont à fond. Hein. Ils veulent voir ce Jésus. Et là, ils le voient partir en barque. Donc hop, ils commencent à courir autour du lac pour aller à l'endroit où les disciples allaient. Et quand ils arrivent, le lieu, ben, il n'est pas désert. Il y a déjà une foule qui les attend. On a envie de les chasser, hein, de leur dire, bon, écoutez, on s'est occupé de vous là depuis des jours, des semaines. Ça serait peut-être bien de nous laisser un peu tranquilles. On a aussi peut-être envie de continuer plus loin avec la barque. Et puis eux, ils continuent de courir le long du rivage. Mais Jésus, quand il voit cette foule, il voit un troupeau de brebis qui n'ont pas de berger. Et il a mal dans son cœur pour eux. Il a de la peine pour eux. Et donc, le bon berger va s'occuper de ses brebis. Et donc, quand Jésus descend, il va enseigner, il va leur parler du royaume de Dieu, il va guérir ceux qui sont malades, ceux qui en ont besoin. Et du coup, ben, les disciples, ils ont dû reprendre leur travail, hein, leur travail de gérer la foule, faire avancer les malades, demander à ceux qui sont en bonne santé, qui veulent juste faire un selfie avec Jésus, de se mettre un peu plus de côté. Et puis, voilà, il commence à se faire tard. Et là, les disciples disent, oula, ça va être compliqué. Hein, parce qu'on est dans un lieu désert et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ils décident d'aller voir Jésus et lui disent, il faudrait renvoyer la foule. Comme ça, ils pourront aller manger dans les villages des environs, avant de rentrer, où ils pourront même dormir sur place. Et dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus s'adresse à Philippe, un de ses disciples. Il lui pose une question. Où allons-nous acheter des pains pour qu'il mange ? Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. En fait, il est même dit dans beaucoup de traductions, pour l'éprouver. Mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répond, même avec 200 pièces d'argent, « Cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Alors c'est très intéressant. La question de Jésus était une question d'endroit. Où, à quel endroit on peut aller acheter des pains pour qu'ils mangent ? Et Philippe, lui, il répond, il ne parle pas de l'endroit, il parle de la somme que ça va coûter. C'est un drôle de dialogue, hein ? C'est souvent comme ça, j'ai remarqué. On pose une question à quelqu'un et il répond autre chose. Parce que dans la tête de Philippe, il était en train de cogiter très très vite. Il dit oui, même s'il y avait un endroit où acheter, on n'a pas assez d'argent. Donc en fait, il n'y a pas d'endroit. On est dans le désert. Où est-ce qu'on peut acheter autant de nourriture pour ces gens-là ? Et puis en plus, il y a tellement de gens que c'est une somme énorme qu'on n'a pas. Pourquoi Jésus lui a posé cette question ? C'était pour mettre le doigt sur les limites. Il y a des limites quand même. Et Philippe, il avait ses limites à l'intérieur de lui. Il y a des limites. Enfin, il n'y a pas de nourriture dans le désert. En plus, il n'y a pas d'argent. Jésus, il faut les renvoyer, quoi. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Et Jésus dit non. On va les nourrir, nous. On va leur donner à manger, nous. Parce que Jésus veut apprendre à Philippe qu'il doit voir au-delà des limites qui lui semblent raisonnables quand lui, Jésus, demande quelque chose. Quand il demande quelque chose à ses disciples, c'est à Jésus qu'il faut regarder. Ce n'est pas à nos limites. Et là, il y a un autre disciple qui intervient, il s'appelle André. C'est le frère de Simon, Pierre. Et André, il dit, là, il y a un petit garçon, un petit Brighton, il a cinq pains d'orge et deux petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour tant de gens ? Et en fait, c'est tout ce qu'ils avaient. Ils avaient ces cinq pains et ces deux poissons. Et c'est ce qu'ils allaient manger là pendant leur week-end de repos. Et j'aime beaucoup ce André dans la Bible. C'est un disciple incroyable. Chaque fois qu'on parle de lui, il amène soit des personnes, soit des informations qui sont utiles au maître. C'est le gars, quand il fait quelque chose, c'est toujours utile, et Jésus peut rebondir sur les personnes qui lui présentent et manifester son amour, sa puissance et sa gloire. Voilà, alors les disciples reçoivent l'ordre de faire asseoir la foule par rangée d'une cinquantaine. Puis Jésus lève les yeux au ciel, il dit une prière de bénédiction, puis il partage le pain entre les disciples. Et ceux-ci les distribuent, il fait la même chose avec les poissons et les disciples distribuent les poissons. Et ils distribuent, et ils distribuent, et ils distribuent, et il y a toujours du pain. Et il y a toujours du poisson. Et quand les gens ont assez mangé, et il est même dit dans les textes, ils ont mangé, c'est la nourriture gratuite, quoi. C'est pas tous les jours, alors on en profite, quoi. C'est comme les repas d'église, on en profite. On va manger tout à l'heure. Et ensuite, il y a des restes. Et Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. Les disciples les ramassent, ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. Les morceaux qui restent sont précieux pour Jésus. Pourtant, ce n'est pas le fruit du travail des agriculteurs, des pêcheurs ou des boulangers. En effet, on peut éviter le gaspillage quand on pense à tout le travail qu'il y a derrière nos aliments. J'ai un morceau de pain, je n'ai pas envie de le jeter parce que je pense, oh punaise, mais un agriculteur, il est passé plusieurs fois dans son champ pour semer, labourer, protéger ses cultures, récolter. Il a transpiré pour ce blé. Ensuite, il y avait le meunier qui a fait la farine. Il a utilisé toute sa science pour faire de la bonne farine. Et le boulanger, il s'est levé tôt le matin. Bon, avec la machine qui décongèle, ça va un peu moins tôt, mais quand même. J'ai du mal à le jeter parce que je pense à tout ce que ces gens ont dû faire pour que je puisse avoir ce morceau de pain. Ce n'est pas le cas. Ici, c'est de la nourriture miraculeuse. Ça n'a pas coûté de sueur. Ça n'a pas coûté 1 euro. Et puis alors, on gaspille. Quand on a beaucoup, on gaspille. Et bien, Jésus dit non. Non. Cette nourriture, j'ai prié. Je l'ai bénie. Pour moi, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, ne laissez pas le pain par terre, mais ramassez-le. Il est précieux pour moi parce que c'est un cadeau de Dieu. Ensuite, le rôle des disciples s'arrête dans cette histoire parce que Jésus les renvoie se reposer ailleurs, sur un lac avec beaucoup de vent. Ah, ils en ont un peu bavé ces jours-là, les disciples. Et pendant ce temps, donc, Jésus lui-même renvoyait la foule. Alors, ce qui est étonnant dans ce récit, j'ai un peu pris ce qu'il y avait dans les 4 évangiles, c'est qu'il y a plein de chiffres. On nous donne vraiment plein de chiffres cette fois-ci. Alors, comme on nous donne plein de chiffres, j'avais envie de faire des calculs. Donc je vous partage un peu le fruit de mes calculs. Alors, par personne, pour un repas du soir, je compte 200 g de pain d'orge, 100 g de poisson, ce qui nous fait à peu près 600 calories sur les 2000 calories qu'il nous faut par jour. Alors, je vous ai dit, il y a des chiffres, on y va. Alors, pour le pain, si on s'arrête à 200 grammes, pour 5000 personnes, ça nous fait 1000 kilos de pain, une tonne. Mais dans un autre évangile, on nous dit que c'était que les hommes, 5000. Il y avait aussi des femmes et des enfants. Alors, je rajoute 40%, ça nous fait donc 1400 kilos de pain. Alors, si on utilise un prix de 3,60 € le kilo, ça nous fait à peu près 5000 €. Que pour le pain. Allez, on arrive au poisson. 100 grammes fois 5000, ça nous fait 500 kilos de poisson. 700 avec femmes et enfants, avec un prix à peu près à 10 € le kilo, on arrive à 7000 € pour le poisson. Total 12 000. 12 000, sachant qu'avec le SMIC, quelqu'un qui travaille toute une année, il gagne 16 700 € à peu près, net. Voilà, donc 12 000, le prix de ce repas, et 16 700. Oui, monsieur ? Oui, on y arrive. Voilà. Philippe avait évalué à un minimum de 200, sachant qu'à l'époque, on gagnait, puisqu'on gagnait une pièce d'argent en travaillant toute une journée, donc à peu près 300 pièces d'argent par an. Donc 200 pour 300, et c'était un minimum, et moi j'arrive à 12 000 pour 16 700. Ça colle, hein ? C'est incroyable. Encore aujourd'hui, ce texte de l'Évangile, ça colle avec ce que nous vivons. On voit aussi un petit peu les limites hein, pour Philippe. Waouh, hein, c'est comme si je vous disais, bon allez, on sort 12 000 euros de la caisse de l'église pour faire un giga repas pour 5 000 personnes. David, c'est Elisabeth, elle me dit du calme. Il y a des limites. Hein. Voilà. Et les 12 paniers de reste. Alors, vous êtes d'accord avec moi, on met 10 kilos dans un panier, hein, 10 kilos de pain, d'orge. Donc ça nous fait 120 kilos, 7000 invités, ça nous fait 17 grammes de déchets de non manger par personne. Ils sont bons, hein. En France, on est à 23 grammes par repas et par personne. Et dans la restauration collective, on est à 113 grammes par repas et par personne. C'est les chiffres officiels en France. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. Ils n'ont pas trop gaspillé, même si nous, on dit oh, 12 paniers. Et ils étaient 5000 hommes. Hein, donc, bon, on va revenir à la mise en pratique quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire de toutes ces informations ? La première, c'est que quand Jésus nous demande quelque chose, il nous demande de le regarder lui, et non pas de regarder les limites que nous nous imposons, que notre raison nous impose. Lui faire confiance. D'ailleurs, Jésus avait dit que ce qui est impossible aux hommes, ce n'est pas impossible à Dieu. Il parlait de la nouvelle naissance. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va vivre exactement cela le soir même, hein, puisqu'en traversant avec le bateau, là, il y a trop de vent et il rame, c'est exactement le mot, hein, il rame. Et Jésus arrive et il marche sur l'eau. Et Pierre dit, bah, si c'est toi, dis-moi de venir, je veux aussi marcher sur l'eau si c'est toi. Et Jésus dit, viens. Et Jésus marche. Et Pierre marche. Tant qu'il regarde à Jésus. Et puis dès qu'il regarde le vent et les vagues, glou, glou, glou. C'est ça que Jésus veut apprendre ici à ses disciples, et spécialement à ce Philippe, hein, qui était bien carré, bien raisonnable. Oui, sois raisonnable, c'est bien, mais fais-moi confiance. Hein, la confiance va au-delà de la raison. Et puis, deuxième leçon, c'est André, le gars qui amène des gens, des situations à Jésus, et Jésus s'en saisit. Ça, on peut toujours le faire, grâce à la prière. Amenons les choses à Jésus, et regardons ce qu'il va faire. On a même la chance d'avoir une réunion de prière, hein, le mardi, à 10h, pour amener ensemble les choses à Jésus. Hein, puisque là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis la troisième chose, c'est quand nous remercions Dieu pour la nourriture, pour les courses que nous avons pu faire, les vêtements que nous avons pu acheter, ces choses doivent être précieuses pour nous. Hein, Jésus nous le dit, ne laissez pas perdre ces choses pour lesquelles nous avons remercié Dieu. Alors bien sûr, hein, quand les vêtements ont fait leur temps, On peut les jeter, hein, on n'est pas obligé de venir avec des vêtements complètement troués et déchirés. Mais même en les jetant, on peut dire merci parce que hein, ce t-shirt a pu me servir toutes ces années, ou c'est moi, merci Seigneur. Et on peut bien sûr aussi les donner ou les recycler. En tout cas, Jésus nous apprend à donner de la valeur aux choses. Pas parce qu'il y a plein d'argent derrière, mais c'est parce que c'est une bénédiction de Dieu. Apprenons à dire merci. Alors, pour terminer, ce miracle, qu'on appelle la multiplication des pains et des poissons, c'était un miracle difficile à comprendre pour les disciples. On le trouve expliqué dans l'évangile de Marc, où après donc l'épisode de la barque où Jésus les avait rejoints en marchant sur l'eau, je lis au verset 51 de Marc 6, « Il monte à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a partagé les pains. Leur cœur est fermé. » Ils n'ont rien capté. Ils ont vu ce poisson, cette nourriture. Ils ont même ramassé les restes. Ils n'ont rien compris. C'est Jésus qui le disait, pas moi. Regardez, je vous lis le texte dans Marc 8, au verset 15. Jésus leur donne cet ordre. « Faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Le levain des pharisiens, c'était l'hypocrisie, c'était des choses tordues hein, qui font fermenter comme le levain fait fermenter le pain. Alors les disciples entre eux se disent il nous dit ça parce que nous n'avons pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur demande « Pourquoi est-ce que vous dites entre vous, nous n'avons pas de pain ? Est-ce que vous ne savez pas encore ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez donc l'intelligence fermée ? Vous avez des yeux ? Est-ce que vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles ? Est-ce que vous n'entendez pas ? Souvenez-vous donc, quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5 000 hommes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux, combien ? Ils répondent, 12 paniers. Jésus continue, et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4 000 personnes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux, combien ? Ils répondent, 7 paniers. Alors Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore ? Vous n'avez pas encore compris que je suis le Créateur ? Que je suis la source de la vie, que je suis Dieu qui pourvoit. Oui, les disciples voyaient pourtant hein, la création, la vie apparaître sous leurs yeux, mais ne voyaient pas le Créateur qui était derrière. On le retrouve dans Jean 14, verset 6. On va afficher d'ailleurs ce passage. Jean 14, verset 6, Jésus lui répondit à ses disciples qui avaient demandé « C'est quoi le chemin hein, pour aller au Père ?» Et Jésus lui répondit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe, vous vous rappelez, hein, Philippe le raisonnable, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, quand je dis « je vis dans le Père et le Père vit en moi » ou du moins croyez à cause de ses œuvres. Oui, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Quelle bonne nouvelle ! Quelle nouvelle merveilleuse ! Et pour terminer, j'aimerais juste vous citer Paul. Paul, il a compris. Ah, ils l'ont aussi compris les autres. Hein. Philippe, il n'y a pas de souci. Il a compris, mais il a eu besoin de plus de temps. Et Paul, lui, dit aux Romains, au chapitre 8, au verset 31, « Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la découverte que les disciples ont fait. Ils ont rencontré Dieu. À travers son Fils, ils ont trouvé l'amour du Père. Et nous avons aussi cette chance ensemble de connaître ce message. Oui, je vous invite à vous incliner pour remercier Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de t'être révélé. Merci, Seigneur, de ce que nous avons cette joie de te connaître. La joie de voir d'autres personnes te rejoindre, te servir, te connaître. Seigneur, glorifie-toi. Et Seigneur, aide-nous aussi à vivre en tant que disciples de Jésus. Amen.